Bien, bonsoir, bienvenue à vous, Marie-Hélène Grard. Merci d'être venue pour présenter donc L'égale dignité des invisibles, qui est un recueil de témoignages auprès de personnes bénévoles impliquées dans le dispositif de travail d'AT d'Écart Monde sur l'école, plus trois contributions d'enseignants et chercheurs. On y reviendra. Je vais vous laisser présenter le livre, d'autant plus que dans la préface, vous dites « J'ai accepté d'écrire ce livre ». Il s'agissait donc d'une commande,
Oui,
une commande d'ATD.
une commande de Vincent Payon.
Alors, explicitez la
Ah,
chose, s'il
c'est
vous plaît.
incroyable, ça. Ça fait sérieux. Enfin, il y en a pour lesquels ça déplaît, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je parle à tous les hommes et femmes politiques tant qu'ils ne sont pas dans les extrêmes. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que Vincent Payon, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, je suis allée le rencontrer. J'étais alors représentante d'AT d'Écart Monde au Conseil économique, social, environnemental, la troisième assemblée de notre République. Et je travaillais sur un avis sur l'école de la réussite pour tous. Et je voulais qu'il me soutienne là-dessus. Donc on a pas mal travaillé ensemble à ce moment-là. On a réfléchi ensemble. Voilà. Et il y a bah, 2 ans, il m'a téléphoné en me demandant si je voulais bien écrire un livre, parce qu'il est directeur d'une collection aux éditions du Bord de l'Eau. Une collection dans laquelle il y a un livre sur l'histoire de l'éducation de Claude Lelièvre, qui est un historien très connu pour les gens de l'éducation, et puis Jean-Paul Delahaye, un inspecteur général avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui parle aussi de la grande pauvreté à l'école dans son livre, mais à sa manière, chacun à notre manière. Et sur le coup, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est très très gentil de me proposer un truc comme ça, mais je ne réfléchis pas toute seule. Moi, je suis à AT d'Écart Monde et on travaille beaucoup en collégialité à AT d'Écart Monde. Donc, je lui ai dit que je réfléchissais avec d'autres et nous avons proposé cette architecture de livre qui est là. Je vous la détaille là?
Bon, je peux le faire si vous
Comme
voulez.
vous voulez.
Donc mais vous expliciterez peut-être
Oui.
la répartition
Voilà
des
pourquoi on a choisi
témoignages.
ça.
Il y a 9 témoignages de personnes différentes qui sont toutes impliquées dans un dispositif AT d'Écart Monde. Certaines sont bénévoles. Il y a 2 élèves qui sont dans une école, en fait, AT d'Écart Monde.
Ah non, non, c'est pas une
C'est
école AT d'Écart Monde, une école
une
de
centre de
production.
formation.
Une école de production, ça
École de
s'appelle,
production.
ouais. Je vais être
J'ai pas
pénible, hein.
assimilé
Ah
tout le
oui, c'est
vocabulaire,
normal.
heureusement.
C'est normal.
Il y a un glossaire à la
On
fin. Et ça, c'est vachement
en a
bien parce
besoin,
que je l'ai vu un peu tard. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y avait un glossaire, c'est super. Donc, oui, ce sont des témoignages de. Et ce qui est très intéressant dans la structuration de ces témoignages, c'est qu'on retrouve à la fois l'expérience personnelle de ces personnes dans leur relation à leur scolarité, dans leur relation à l'école, à l'enseignement et à l'apprentissage dans ce que ça regroupe, et leur expérience de parents. Donc les 9 témoignages permettent de vraiment avoir une vision d'ensemble sur la façon dont la personne, en tant qu'enfant, puis ensuite en tant qu'adulte, travaille ses relations avec l'école. C'est assez effrayant, en même temps rien de très surprenant. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu des difficultés dans les relations à l'éducation nationale ont eu des difficultés aussi en tant que parents. Mais on sent bien aussi qu'à travers un accompagnement fort, en l'occurrence associatif, mais ça aurait pu être à travers le biais d'autres structures. Ils arrivent à dépasser un peu ces problématiques-là et à déconstruire un peu leur relation, enfin leur expérience personnelle pour être dans une relation un peu transformée en tant que parent. Ce qui est quand même très, très vertueux. Ce qui m'a marqué et ce que vous redites, ce qui est redit quand même pas mal dans votre introduction et dans les témoignages ensuite des enseignants et des chercheurs qui ont fait les 3 contributions. C'est la foi et l'espoir que conservent chacun et chacune de ces personnes en l'école. Alors que tous disent avoir eu des difficultés, tous trouvent que ça reste quelque chose indispensable au développement de chacun. Donc c'est très questionnant aussi de lire ça. Donc vous avez structuré chaque. Alors, vous avez fait des interviews.
Écoutez, j'ai peut-être pour vous expliquer pourquoi on a choisi cette structure de livre, j'ai envie de vous dire un tout petit peu. Il faut que vous preniez un petit siège pliant là, vous serez beaucoup mieux. Quand même juste vous dire pour ATD Quart-Monde que nous avons trois formes d'engagement et pourquoi j'ai voulu converser avec ces personnes. Parce que c'est une vraie conversation que j'ai eue avec chacune de ces personnes. Donc à ATD Quart-Monde, il y a trois formes d'engagement qui disent la manière dont nous voulons éradiquer la grande pauvreté en fait en France et dans le monde. Et ces trois formes d'engagement, ce sont des militants quart-monde. Les militants quart-monde, ce sont des gens qui vivent dans la grande pauvreté, mais qui décident de devenir militants et qui acceptent de... Ça veut dire que je vis toujours dans la grande pauvreté, donc grande pauvreté, je vis de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, ou je vis dans un hébergement d'urgence, dans des conditions difficiles en tout cas. Et puis, je vis également avec moins de 800 euros par mois, enfin voilà, dans une précarité au quotidien. La grande pauvreté, juste pour vous resituer de qui je parle, hein, je parle des gens les plus pauvres dans notre pays, qui ont des problèmes dans le domaine du logement, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, dans tous les domaines des droits fondamentaux en fait. Donc voilà, ils sont 9,2 millions à vivre sous le seuil de pauvreté dans notre pays, mais ils sont 2,5 millions à vivre dans la grande pauvreté, comme ça, dans notre pays. C'est quand même pas tout à fait rien. Donc les militants quart-monde, ce sont des gens qui ont vécu ou qui vivent dans la grande pauvreté et qui décident de devenir militants, qui décident de se mettre debout pour se former à ce que moi j'ose appeler la pédagogie d'ATD Quart-Monde, c'est-à-dire partir de celui qui a le plus de mal pour permettre à tous d'être dans la société, de faire société ensemble. Et pour l'éducation, c'est très simple, et c'est notre partenariat avec les syndicats, avec les mouvements pédagogiques, avec les fédérations de parents d'élèves, avec l'éducation nationale. C'est une phrase qui nous réunit, c'est partir de l'enfant qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les enfants en ne pénalisant pas ceux qui réussissent le mieux. C'est vraiment une société qui n'oublie personne, une société qui ne laisse personne de côté. Donc ces militants quart-monde, ils se forment à la pédagogie d'ATD Quart-Monde et ensuite ils travaillent avec nous, avec des chercheurs, avec des professionnels, pour essayer de faire changer les choses, pour former des professionnels à la connaissance de la grande pauvreté, voilà, des choses assez diverses. Et puis, l'autre forme d'engagement, qui est assez particulière à ATD Quart-Monde, ce sont des volontaires permanents. Les volontaires permanents, ce sont des personnes qui ont une formation professionnelle, qui exercent déjà un métier, et qui acceptent de se former pendant 2 ans à la pédagogie d'ATD Quart-Monde. Et après ces 2 ans de formation, on les envoie, le mouvement ATD Quart-Monde les envoie pour vivre auprès des plus pauvres dans l'un des quartiers en France où nous choisissons. En France, ils sont une centaine et dans le monde, ils sont 400. Nous sommes dans 35 pays dans le monde, donc une centaine en France, 400 dans le monde. Mais cette centaine de volontaires permanents, pour nous, c'est très important. C'est que vivent les plus pauvres au quotidien et comment nous pouvons vivre des expérimentations dans le domaine du logement, de l'emploi, de l'éducation, au quotidien avec eux, pour transformer notre société et faire qu'ils aient vraiment une place dans la société, les plus pauvres. Donc ces volontaires permanents, pour nous, c'est essentiel. C'est un sacré engagement, parce que qu'ils aient n'importe quelle responsabilité, ils sont tous déclarés au SMIC, en étant logés par le mouvement ATD Quart-Monde, ils perçoivent 700 euros d'indemnité par mois. Donc parfois ils font 5 ans avec nous, parfois 10 et parfois toute leur vie. Voilà, c'est. Mais ça change quand même profondément la manière de pouvoir travailler au quotidien avec des plus pauvres que d'avoir des gens qui vivent H24 auprès des plus pauvres. Et puis une troisième forme d'engagement que voulait notre fondateur, c'est des alliés. Moi je suis alliée avec mon mari, nous sommes alliés depuis 40 ans d'ATD Quart-Monde. C'est des alliés, ce sont des personnes qui n'ont pas connu la grande pauvreté, mais qui se forment à cette pédagogie d'ATD Quart-Monde et qui acceptent du coup d'avoir un regard différent sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire on peut être allié dans la mesure où on s'est formé à cette manière de voir et d'agir avec les plus pauvres, on peut être engagé un tout petit peu comme ça ou grand comme ça. Voilà, c'est chacun fait les choix comme il veut dans sa vie. Mais les alliés d'ATD Quart-Monde, c'est ouvrir les yeux sur l'école de ses enfants et ne laisser aucun enfant de côté dans l'école de ses enfants. C'est chez son employeur, enfin là où on travaille. Ouvrir les yeux tout d'un coup sur des personnes qui sont plus mises de côté. C'est là où on habite, pareil, ouvrir les yeux sur des personnes en fait que l'on ne remarque pas, qui habitent dans des lieux un peu cachés, dans des habitats misérables, etc. C'est voilà, avoir une autre manière. Alors c'est pas forcément être dans une action d'aller. On ne porte pas du tout de nourriture. Hein, on est pour que les. Notre phrase fondamentale à ATD Quart Monde, c'est tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inaliénable qui fait sa dignité d'homme. Et ça, pour nous, c'est voilà, c'est la base. C'est vraiment. Et ce que nous voulons, c'est que tout homme, toute femme puisse exercer ses droits. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, je reviens au livre. Après, vous avez fait un petit cours sur ATD Quart Monde, mais c'est comme ça que vous allez mieux comprendre. J'ai dit tout de suite à Vincent Payon, enfin, après avoir réfléchi avec mes amis, je l'ai rappelé et je lui ai dit, mais ce qui nous semble intéressant, c'est de raconter le combat éducation d'ATD Quart Monde. Nous existons depuis 65 ans et depuis le premier jour, le combat éducation existe au sein d'ATD Quart Monde. C'est vraiment, encore une anecdote, mais Wrezinski, notre fondateur, quand il est arrivé dans le bidonville à Noisy-le-Grand en 1957, la première chose qu'il a mis en place avec les 250 familles qui sont là, c'est une laverie. Une laverie pour que les parents puissent aller chercher un emploi et que les enfants puissent aller à l'école. Je vous dis quand même les deux autres choses parce que c'est pas banal. C'est une bibliothèque, parce que les livres, la culture, c'est aussi essentiel que d'être en bonne santé, que l'éducation, que la culture, c'est absolument fondamental. Tout le monde a besoin de la culture. Sinon, on n'arrive pas à être pleinement dans l'humanité partagée que l'on souhaite. Et puis, il a mis en place un salon d'esthétique. 1957. Pourquoi un salon d'esthétique? Parce que la grande pauvreté, ça casse terriblement. Ça casse l'estime de soi. Et que mettre en place un salon d'esthétique, c'est oser se regarder. Oser se regarder pour ensuite aller parler aux autres. Pour ensuite oser aller dialoguer avec d'autres. Voilà. Une laverie pour avoir des vêtements propres et puis oser se regarder. C'est quand même important quand on vit dans un bidonville. Bon, évidemment, je me suis perdue là.
Oui, reviens sur ton livre.
J'y reviens, j'y reviens. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai la pendule en face, je surveille.
Est-ce que juste vous pouvez enlever le portable?
J'enlève mon portable qui grouille sur l'enregistrement et c'est mort. Alors attendez, je vais le mettre là, je ne l'oublierai pas. Voilà. J'en étais là. Oui, voilà. Donc le combat éducation d'ATD Quart Monde de 1957 à aujourd'hui, c'est dès le premier jour que les enfants puissent aller à l'école et dès le début des années 60, la création d'un centre de recherche qui existe toujours, hein, qui est maintenant à Bayeux en France, un centre de mémoire de la grande pauvreté et de recherche où des chercheurs viennent travailler. Astérix, qui vient d'être reconnu par l'UNESCO. Donc voilà, c'est un vrai centre de recherche important. Mais nous travaillons depuis le début des années 60 avec des chercheurs dans tous les domaines des droits, parce que nous pensons que travailler avec les plus pauvres, c'est essentiel. Travailler avec les professionnels, c'est essentiel dans tous les domaines de la vie, hein, les banquiers, les assistants sociaux, les enseignants. Mais travailler avec les chercheurs aussi, c'est très important. Donc voilà, j'ai souhaité raconter ce combat éducation d'ATD Quart Monde dans les, je me rappelle plus, 20-30 premières pages. Enfin, c'est ce que j'ai écrit de ma plume, les premières pages. C'est le combat éducation du mouvement ATD Quart Monde. Et puis mes quelques idées de façon tout à fait modeste avec ce que j'ai comme expérience sur l'éducation dans notre pays et l'état de l'éducation nationale. Enfin, voilà, je cogne pas, hein, je suis. Mais je suis raisonnablement, voilà, quand même. Ensuite, nous nous sommes dit, c'est essentiel que les plus pauvres aient pour une fois la parole et puissent raconter leur parcours scolaire. Alors là, pour cette partie-là, j'ai donc dialogué avec 10 militants Quart Monde qui ont entre 17 et 67 ans. Ils racontent tous leur parcours scolaire, comme m'a dit Vincent Payon, C'est rude, c'est vraiment très rude. Il a même mis 3 semaines avant de me rappeler pour me dire qu'il l'avait envoyé à l'éditeur parce que il avait un peu de mal à digérer ce qu'il avait lu. Mais l'éditeur lui a dit, mais c'est la vérité. T'as été ministre, tu sais ce que c'est. Donc c'est comme ça que ça se passe dans l'école.
Il savait pas.
Il le savait, mais c'est dur à lire. Je vais vous le dire après. Je vais vous dire pourquoi. Ces 10 militants, ils donnent leur parcours, mais ils donnent aussi leurs idées sur l'école. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'école pour que tous les enfants puissent réussir à l'école? Et ça, pour moi, c'est un point essentiel. On peut dire que ça n'a pas marché pour eux. Ok, ça n'a pas marché pour eux, ça marche pas bien pour leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans cette école? Ça me semble essentiel parce que ce qu'il faut, c'est projeter des choses pour demain, pour dire comment avancer ensemble pour cette école qui permet la réussite de tous. Alors c'est dur, c'est Franck qui dit, l'école, mes enfants, ils auraient voulu faire des études plus longues que celles qu'ils ont faites, et ils ont été scolarisés dans des classes qui ne sont pas des classes pour apprendre, mais des classes pour faire patienter. C'est terrible. C'est pour les enseignants, c'est quand même terriblement rude d'entendre ça. Et puis c'est Vincent qui a 35 ans, qui est papa de 3 enfants, qui a cette expérience aussi de la grande pauvreté et qui ne vit plus dans la grande pauvreté aujourd'hui, mais qui dit, moi, mon orientation scolaire, je n'ai pas pu choisir. Mes parents n'étaient pas en capacité. Moi, je ne savais pas bien comment faire. Je réussissais bien en techno au collège. Donc, ils m'ont orienté en STI et j'ai cru que j'allais travailler à la NASA en allant en STI. Et en fait, je me suis retrouvée sur une tourneuse fraiseuse. Et ça, c'était vraiment dur pour lui. Il dit, mais j'ai en fait, on m'a mis dans un couloir où j'ai fait la formation que je n'aurais pas voulu faire. Donc, j'exerce aujourd'hui un métier que je n'aurais pas voulu faire. C'est rude, hein, quand même, parce qu'on s'en prend pour 40 ans derrière, hein. Donc, c'est pas si facile après de faire autre chose, quoi. 42, pardon. Eh ouais, c'est ça. J'ai 62, donc comprenez bien. Moi, j'ai eu la chance. Voilà. Mais Vincent, avec sa femme Élodie, ils sont tous les deux dans le livre. Ils se battent pour leurs enfants, pour que leurs enfants réussissent à l'école. Ils font tout pour être délégués de parents d'élèves dans l'école et pouvoir aller dialoguer avec les enseignants, même si ce dialogue, c'est pas toujours simple. Mais on y reviendra si vous voulez. Après, comme vous l'avez dit, il y a 3 autres personnes. Après ces 10 militants Quart-Monde, il y a 3 autres personnes. Il y a une chercheuse qui est Dominique Lahannier-Reuter, qui est une alliée d'ATD Quart-Monde, mais qui est chercheuse d'abord, fondamentalement. Et avec Dominique, nous animons toutes les deux une recherche dans 15 écoles en France sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés. Donc, j'ai voulu que ça apparaisse dans ce livre parce que c'est une recherche que nous faisons actuellement dans 15 écoles. C'est compliqué quand même de voir que de constater qu'encore aujourd'hui, notre système scolaire est terriblement inégalitaire et que plus vous venez d'un milieu défavorisé, moins vous avez de chances de faire des études, de choisir les études que vous allez faire et de faire des études au-delà du brevet, même des collèges. Donc voilà, c'est important pour nous cette recherche, comprendre avec des enseignants d'écoles assez différentes. Des écoles de centre-ville, des écoles dans des quartiers où la vie est plus compliquée qu'ailleurs, des écoles en pleine campagne, des petites, des grosses écoles, voilà. Et chaque école a un chercheur. Enfin, je pourrais vous le détailler si vous le souhaitez, cette recherche, mais elle s'étale sur 5 années. Nous avons encore, avec Covid, on ne sait pas très bien les années, mais encore au moins 2 ans, 2 années de cette recherche. Donc voilà, avec Dominique, là, à ce moment-là du livre, on est vraiment en conversation toutes les deux. On répond à une journaliste amie qui m'a aidée pour synchroniser bien ce livre, le mettre bien en forme. Et on répond aux questions de Véronique Soulet, qui était journaliste spécialiste éducation à Libération. Et voilà, on converse à ce moment-là. Ensuite, il y a Gwenaël Le Guevel. C'est un enseignant. Alors, il coche toutes les cases, lui. Il est enseignant, il est syndicaliste. Je dis, il coche toutes les cases parce que on a des partenaires à ATD Quart-Monde avec lesquels on travaille. On ne travaille jamais tout seul. Donc, et dans le domaine de l'éducation, on travaille avec des syndicats. FSU, SNUIPP, SGEN, CFDT et SEUNSA. Et donc, Gwenaëlle, il est enseignant, syndicaliste, il a été enseignant en SECPA, les sections particulières du collège pour des enfants qui ont plus de difficultés. Et en plus, il a une fille handicapée. Donc c'est là où vraiment il coche toutes les cases, parce que il s'est rendu compte aussi, en étant parent d'une enfant handicapée, combien l'école, c'est compliqué quand on a un enfant qui rentre pas dans les cases. Voilà, mais je tenais à son témoignage dans ce livre.
Alors je vous interromps, le témoignage de Gwenaëlle commence quand même par la phrase suivante. « J'ai démarré comme professeur des écoles et j'ai été nommée en SECPA parce que j'étais dans les derniers au concours. »
Ah, oui. C'est encore une autre case qui coche.
Et donc après, il explicite ça, mais ces quelques pages sont d'une grande lucidité. Enfin, il est très, très objectif. Et en même temps, cette première phrase montre bien quand même qu'il y a un souci structurel.
C'est clair. On pourra y revenir aussi. Et puis la dernière, qui n'est pas la dernière dans mon cœur, c'est Florence de Nonfou, une directrice d'une école, maternelle, 15 classes, c'est un petit collège, hein, pour vous donner un peu la dimension. C'est-à-dire que les moyens, vous savez, ceux qui ont 4 ans, ils montent au deuxième étage dans l'école, hein, pour aller en classe.
D'accord ?
Donc dans Lyon, dans le 8e à Lyon, dans un quartier où 90% des parents sont des parents qui habitent en centre d'hébergement, en CADA. Donc des parents qui, pour la plupart, déposent leur enfant le matin à l'école et vont marcher toute la journée parce qu'ils n'ont pas le droit de rester là où ils logent, et reviennent le soir pour prendre leur enfant et aller au centre d'hébergement. Et une équipe enseignante, ce sont 17 femmes. À la maternelle, quand même, on a de grandes chances de trouver beaucoup de femmes. 17 femmes qui vraiment sont toutes très engagées, qui sont dans notre recherche CIPES, hein, qui travaillent dans cette recherche, et qui sont très engagées dans un quotidien, alors particulièrement sur la relation avec les parents. Elles cherchent à nouer des relations avec les parents. Alors peut-être une petite incise pour vous dire pourquoi nous aussi, à ATD Carmont, on est très attachés à cette relation parent-enseignant. Parce que vous le savez sans doute, mais beaucoup d'enfants, et trop d'enfants dans notre système scolaire, sont, entre guillemets, victimes du conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, ça ne veut pas dire que la relation avec les parents, ça va résoudre le conflit de loyauté, hein, mais c'est une des manières d'essayer de résoudre ce conflit de loyauté. Mais le conflit de loyauté, plus on le résout tôt, et plus l'enfant va rentrer dans les apprentissages tôt. Si on le résout à 40 ans, c'est quand même un sacré gâchis humain. Mais c'est souvent le cas. Et le conflit de loyauté, c'est l'enfant entend des choses à l'école tellement différentes de ce qu'il entend à la maison, vit des choses à l'école tellement différentes de ce qu'il vit à la maison, que de peur de trahir ses parents, son milieu, sa famille, il bloque de façon tout à fait inconsciente dans son cerveau, c'est à cet endroit-là du cerveau que ça se bloque, il bloque les apprentissages. Et l'enseignant peut développer tout ce qu'il veut, tant qu'il ne va pas arriver à dénouer ce conflit de loyauté, eh bien l'enfant ne rentrera pas dans les apprentissages. Alors il n'y a pas de méthode miracle, si on avait, ça serait génial, et on, voilà. Mais n'empêche, le conflit de loyauté est une des choses qui empêche beaucoup, beaucoup d'enfants d'apprendre, de rentrer dans les apprentissages qui sont proposés à l'école, et ce, dès le plus jeune âge. C'est dommageable. Et cette relation parent-enseignant, on se rend compte, alors aucun miracle, hein, bien sûr, mais on se rend compte quand même que quand les enseignants, comme c'est les enseignants de cette école Fournier à Lyon, qui ont vraiment réussi à tisser une relation avec chaque parent, mais chaque parent, tous, pas... Vous savez, souvent, les enseignants me disent « Ouais, nous, on est super bons, on en a rencontré 70% cette année. » Non, en fait, c'est les 30% qui nous intéressent. Moi, je suis vraiment le... On est le poil à gratter, nous, à TD Carmont, c'est un peu normal. Hein. On cherche toujours à aller vers les plus pauvres. Donc, Et là, justement, à Fournier, elles sont allées rencontrer, elles ont réussi à rencontrer 100% des parents. Parce que c'est ça qui est important. Et quand l'enfant sent qu'il y a une relation d'adulte à adulte, une relation de confiance entre l'enseignant et son parent, c'est quand même, ça change les choses pour l'enfant. C'est vraiment, il sent des choses, enfin, sont des éponges, hein, nos enfants. Des éponges de leurs parents, des éponges de leurs enseignants, même toute l'admiration qu'ils peuvent avoir pour les enseignants, quand ils sont dans ce conflit de loyauté, et bien, voilà. Alors, je vous raconte juste, et puis après, je m'arrête parce que je voudrais avoir vos questions. Mais je vous raconte juste ce qu'ont fait ces enseignantes à l'école Fournier, dans cette école maternelle si particulière, avec 90% de parents qui vivent des situations très difficiles. En janvier 2022, nous étions encore en Covid, juste au passage, pour le redire, l'éducation nationale a été tellement rude avec ses enseignants, je veux quand même le souligner, c'était la période où on changeait de protocole toutes les 2 heures à peu près. Donc les enseignants étaient au bout du rouleau. Hein. Franchement, dans les 15 écoles avec lesquelles nous sommes dans la recherche, tous les directeurs et directrices ont été en arrêt à minima 2 mois dans cette année-là. Tellement c'était rude. Et alors qu'on les avait jamais vus en arrêt maladie, quoi. Donc ça, je le dis quand je rencontre les recteurs, rectrices. Enfin, ma parole est libre, donc je ne me gêne pas. Parce que, franchement, c'est inadmissible la manière dont l'éducation nationale a traité son personnel pendant la période de Covid. On pourrait détailler, mais vraiment, il y avait des manières de faire autrement. On leur a fait des propositions qui n'ont pas jamais été entendues ni retenues. Je le dis très sincèrement, parce que moi, j'ai fait partie du conseil scientifique Covid-19 et que j'ai fait des propositions au nom de ce conseil scientifique à Jean-Michel Blanquer à ce moment-là, qui n'ont pas été retenues. Bref, ces enseignantes, assez épuisées de Lyon 8, là, en janvier 2022, elles proposent, elles se disent, elles réfléchissent avec la chercheure qui les accompagne pour notre recherche, comment on fait pour atteindre tous les parents. Et si on faisait un questionnaire pour des enfants en maternelle, si on faisait un questionnaire à ses parents pour leur demander « Que pensez-vous que votre enfant apprend à l'école ?» Et qu'est-ce qu'il est important qu'il apprenne à l'école ? Des parents qui vivent, qui parfois ne sont pas toujours allés à l'école même, ou qui ont eu des parcours scolaires en tout cas tout à fait déplorables. 80% d'entre eux ont répondu. Génial. 80%, et dans les 80% des réponses extrêmement variées, mais toutes vraiment trop bien, quoi. La directrice, quand elle est passée avant les vacances de février pour dire aux enseignants « je vais vous faire la synthèse pendant les vacances »« Non, non, tu les prends pas, moi je veux les lire, ça va me faire du bien pendant les vacances », ont répondu les enseignantes. Donc, et puis elles se sont dit « il faut qu'on rencontre les 20% ». Donc elles ont rencontré individuellement les 20% de parents qui n'avaient pas répondu parce qu'ils ne sont pas en facilité avec le français, donc un traducteur, une traductrice, enfin tout ça, ça prend du temps, mais voilà, elles ont pris le temps. Et au regard des réponses de ses parents, elles se sont dit « mais en fait, ils s'intéressent drôlement à l'école, c'est incroyable, mais les parents, ils sont quand même très passionnés par ce qui se passe à l'école et ils en connaissent bien plus que ce qu'on pensait. » Donc ça les a déjà quand même beaucoup bousculés. Et puis elles se sont dit « mais en fait, eux, ils s'intéressent beaucoup, mais nous, est-ce qu'on connaît bien les enfants qu'on a dans nos classes ? On ne les connaît pas tant que ça. » Et donc elles ont décidé à la rentrée de septembre de faire pendant tout le mois de septembre des rencontres individuelles avec chaque parent d'enfant qu'elles ont dans leur classe. Pour avoir un dialogue avec chaque parent, racontez-nous, racontez-moi, c'est un dialogue de parents à enseignantes, hein. Racontez-moi qui est votre enfant, qu'est-ce qu'il fait de fabuleux, de merveilleux, qui vous éblouit, et puis qu'est-ce qu'il n'arrive pas à réussir ? Comment vous croyez, qu'est-ce que vous croyez qu'il doit faire davantage à l'école, enfin voilà, tout ce que vous avez comme rêve pour vos enfants, enfin. Et ça a changé leur année. Elles le disent très clairement, ça a changé leur année, d'autant plus que la hiérarchie leur avait imposé, jusqu'à présent, elles étaient dans des classes où elles faisaient petit, moyen et grand ensemble. Vous voyez, des classes multiniveaux. Mais ça, c'est pas dans l'esprit actuel du ministère. Donc, malgré mes bonnes relations avec monsieur le recteur, il n'a pas voulu entendre, elles ont dû faire une classe de grand dédoublé, puisque c'est le grand truc là, dédoubler les CP, les classes de grand en maternelle. Donc ils ont dédoublé les classes de grand et les autres, ils les ont mis en moyen et petit. Ce qui, pour elles, était un crève-cœur, parce que si elles ont fait ça depuis des années, c'est parce qu'elles ont constaté combien les enfants qui arrivent à l'école, mais faut voir hein, quand même, c'est des enfants qui arrivent à l'école, ils sont pas propres, ils parlent à peine, ils sont très peu socialisés, ils n'ont pas vu d'autres enfants que ceux de leur famille, enfin c'est pas facile, hein. Et elles disent justement de mélanger des petits, des moyens et des grands, ça les tire et c'est vraiment trop bien. Donc c'est pour ça qu'elles ont réfléchi à faire avec les parents davantage en se disant peut-être ça va justement tirer les enfants comme on arrivait à les tirer dans les multiples niveaux. Je pourrais vous parler pendant des heures, vous l'avez compris.